Les lectures, je trouve, aujourd'hui sont traversées de part en part par la charité, l'expression de la charité. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, nous lisons cette phrase: dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. On pourrait s'enthousiasmer à l'abondance de la joie et au trésor de générosité. Néanmoins, il ne faut pas oublier le début de la phrase: dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve. Est-ce que cette phrase ne rejoint pas finalement tous ces moments, toutes ces périodes, toutes ces personnes qui sont précisément dans une situation de détresse et dont l'apôtre nous dit que ce qui a permis à ces Corinthiens de survivre au milieu de cette détresse, c'est la générosité. C'est assez étonnant, parce qu'on aurait pu penser que quand on est dans une détresse, dans une épreuve, il faut prendre soin de soi. Voilà. Et en fait, quand on a l'occasion de lire des ouvrages de pèlerins, même d'aujourd'hui, hein, des pèlerins modernes, qui racontent donc ce qu'ils ont vécu, il n'est pas rare qu'il y ait dans leur pèlerinage un passage, enfin dans leur marche, hein, quand je dis pèlerin, ça peut être Jérusalem, ça peut être, mais c'est pas forcé, hein, ça peut être simplement une marche, de découvrir un accueil complètement dingue de la part de gens qui vivent dans une seule pièce, à 4 ou 5, et qui vont vous mettre le meilleur fauteuil, le meilleur lit qu'ils ont, qui vont se priver pour vous recevoir. Et là, on découvre le trésor de générosité, quelle que soit la pauvreté des gens. Et bien souvent, ce sont nos richesses qui nous encombrent et qui nous empêchent de connaître la joie. Je pense par exemple aux riches et au pauvre Lazare, vous savez. Le riche faisait bonbons tous les jours et il ne voyait même pas Lazare à la porte de sa maison. C'est curieux. C'est quand même très très curieux. Hein. Donc en fond, il y a derrière ça, enfin, je prends cet évangile comme illustration, mais voilà, derrière ça, il y a une vraie question de savoir en fait à quoi je dois renoncer pour aimer mon prochain. Le prochain, c'est souvent celui qui est à côté, hein. Peut-être pas très drôle d'ailleurs. Voilà, et donc un trésor de générosité, donc une charité en acte. Voyez. Il va le dire plus loin du reste. Et au fond, on découvre quoi dans l'attitude de ces gens, de ces Corinthiens? Eh bien, il dit, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous. Bon, je tire ça du contexte, parce que je ne sais pas exactement quel est le contexte de cette lecture, peut-être vous en savez plus que moi. Je me dis, tiens, on commence par se confier au Seigneur, se donner au Seigneur, et ensuite aux autres. Vous voyez, il y a une logique, il y a une prudence, il y a un ordre. Si on ne se donne pas d'abord au Seigneur, on risque de mal se donner aux autres. On risque de se donner en désordre. Bon, je relève ça. Hein. Et puis, ensuite, à ces gens qui sont perclus de détresse, il dit un truc complètement dingue. Vous avez tout en abondance. Attends, tu parles de quoi, là? Ben oui, on a en abondance quoi? Il le décrit: la foi, la parole, la connaissance de Dieu. Qui permet précisément de se donner à Dieu, d'être reçu par Dieu, puis vient ensuite toutes sortes d'empressements qui viennent remplir, nourrir le don généreux. Voilà. Et au fond, est-ce que nous avons conscience de cette abondance de la parole ? De cette abondance de la foi, de la connaissance de Dieu ? Ou est-ce que nous vivons comme si nous ne connaissions pas Dieu ? Comme si nous n'avions pas sa parole, qui est une parole de vie éternelle. C'est sûr que si on lit l'Évangile en se disant « bon, ça y est, je l'ai fait, ça fait 5 minutes, c'est bon », c'est pas une parole de vie, ce truc-là. C'est pas une parole de vie, puisque ça dure 5 minutes. Si ça dure pas toute la journée, c'est pas une parole de vie. C'est une parole de... Ouais, la chanson était bien, quoi. Ouais, la parole était pas mal, on réécoutera. Bon, très bien, mais c'est pas ça, quoi. Et alors, l'apôtre achève en parlant de l'authenticité de votre charité. Donc, la charité s'authentifie par son action. Une charité qui n'agit pas, c'est pas possible. Et puis, on découvre aussi une chose, enfin, je ne sais pas si on la découvre d'ailleurs, mais... La charité, il n'y a pas de maximum dans la charité. Vous savez peut-être que dans la vertu théologale de charité, il n'y a pas de maximum. Le maximum dans la foi, c'est quand on voit, on arrive au terme de la foi. Dans l'espérance, c'est de recevoir ce qu'on a espéré. Mais la charité, on peut toujours aimer plus. Donc la charité, il n'y a jamais de maximum. Ce qui est intéressant quand même. Et cette charité est en fait un don de Dieu qui passe par nous. Voilà. Et il finit en disant, la pauvreté, ce n'est pas un argument, hein, parce que Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour qu'on soit riche. Donc en fait, quand on est pauvre, ça n'empêche pas d'enrichir les autres. Alors évidemment, ça ne va pas être de ce à quoi on pense, ça ne va pas être... Et je parle d'une pauvreté matérielle, hein, voire intellectuelle. Je ne parle pas de la pauvreté qui est de ne pas savoir que Dieu existe, qui est la plus grande pauvreté du monde. Je ne parle pas de la pauvreté, la maltraitance. Quand vous pensez à Joséphine Bakita, cette petite esclave noire, peut-être arabe, je ne sais pas. En tout cas, qui est rasié et puis qui sera battu par ses maîtres, vendu, revendu, revendu. Et finalement, grâce à un maître italien, elle vient s'installer en Italie. Et lui ou son épouse, je ne sais plus, décide d'affranchir cette esclave, que voulez-vous, qui finira par être religieuse et être canonisée. Donc. Et sainte Joséphine Bakita, qui en disait, je crois que ce sont ses sœurs qui lui disaient, mais si vous trouviez vos ravisseurs, qu'est-ce que vous feriez? Et elle répond, je leur baiserai les mains.
Waouh!
Parce qu'ils sont à l'origine de tout ça, finalement. Mais oui, mais à l'origine de tout ça, ça lui a permis de découvrir les Christ. Si elle n'avait pas été l'objet d'une capture, d'un rapt, elle dit, mais j'aurais jamais découvert le Seigneur. Alors ça ne veut pas dire, ouais super, bon, ça veut dire, voilà, les faits sont là, et on ne peut pas, il y a beaucoup de gens comme ça qui témoignent et qui disent, voilà, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas drôle du tout. Mais en tout cas, c'est grâce à ça que j'ai découvert ceci, l'amour de Dieu, etc. Bon, on peut le dire soi-même, hein, le dire pour les autres, attention, hein. Chacun dit ce qu'il peut dire. Donc la charité agit. Voyez. Et alors dans l'Évangile, ben, on a exactement la même chose. Aimez vos ennemis, si ce n'est pas de la charité, afin d'être vraiment les fils de votre Père. Donc la charité,
l'exercice de notre charité,
exprime notre filiation divine. Donc il en va de notre filiation divine. Moins nous avons conscience d'être enfants de Dieu par adoption, moins la charité peut se frayer un chemin facilement en nous et par nous. Ce qui veut dire, vous voyez, qu'il faut cultiver cette filiation, cette connaissance de Dieu. Qui est Dieu ? Si je sais un peu mieux qui est Dieu, je vais savoir qui je suis, puisque je suis le fruit de l'amour de Dieu, qui m'a créé parce qu'il m'aime, et qui a voulu que je sois son fils par adoption dans son fils unique Jésus. Et du coup, l'amour nous saisit quand nous pensons qu'il est mort pour nous, quoi. Vous voyez ce que dit Paul aussi. Donc, on arrive à cette finale, vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est quoi la perfection du Père dans ce domaine-là ? Eh bien, c'est que le Père, il aime tout le monde. Il a de l'intérêt pour tous. Absolument tous. Vous voyez, on a plusieurs propos du pape François ont été très souvent critiqués, la plupart du temps par des crétins, du reste, qui prenaient les choses au premier degré, sans aller voir où est-ce que était ancrée une parole pareille. Ben voilà, soyez parfaits, ayez de l'intérêt pour tous. Tous, disait le pape. Évidemment, on ne peut pas dire tous dans l'Église, mais il faut quand même le baptême. Donc, accueillons tout le monde pour que chacun puisse découvrir la grâce du baptême. Il ne faut pas oublier de le dire quand même. Mais ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est les meilleurs, quoi. La plupart du temps, ce n'est pas vrai, du reste. Donc, voyez, un intérêt pour tous, c'est ça la charité, il en va de notre filiation. Si vraiment nous avons compris ce que c'est que d'être fils et filles adoptives de Dieu, nous voulons que les autres le découvrent aussi. Et donc nous allons vers eux. Et on ne le regarde plus comme des concurrents, des ennemis, des gens bizarres, mais on les regarde comme des fils de Dieu par adoption, qu'ils pourraient devenir s'ils savaient et s'ils y consentaient. Dans ces banlieues où c'est pas très sécurisé, où vous avez des dealers, où vous avez des islamistes, où vous avez des voleurs, où vous avez... Enfin, j'en sais rien, moi. Alors, je vous dis pas que c'est facile, hein, mais c'est ça, ce regard. Ça, c'est un regard surnaturel qui amène des trésors de générosité. Et c'est ça, finalement, qui fera de quelqu'un la sainteté de cette personne. Alors, il y a une dose de naïveté, mais attendez... vous ne trouvez pas que Dieu il est un peu naïf avec nous ? Quoi qu'on fasse, il est content de nous voir. Quoi qu'on fasse, il est content quand on revient vers lui. Réfléchissez deux secondes. Hein. Est-ce que ce serait vrai pour tout ? Quelqu'un qui a fait brûler votre maison, que vous revoyez, je suis content de te revoir. Bon, enfin... Réfléchissons un peu à ça. Alors, si Dieu est comme ça avec nous, ben, je pense qu'il faut qu'on fasse pareil, quoi. C'est pas une option, en fait.